Et si? Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech? Ça serait bien, non? Je suis Aurélien Garrigo, partenaire chez Engineering Inside et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, CTO, managers et chefs de projet évoluant avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs, internes ou externes, toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme un moyen de faire entrer dans votre entourage les meilleurs juste en pressant un bouton.
Très souvent, les gens ne s'intéressent pas aux échecs, aux choses qui ne marchent pas. Et pourtant, les choses qui ne marchent pas, c'est essentiel. Quand on a compris pourquoi ça ne marchait pas, il y a toujours tout un tas de connexions sur des problèmes qui vont nous arriver à un moment donné, dans lequel on va se retrouver dans le même cas de figure. Je vais peut-être choquer, mais être très bon développeur, c'est relativement facile. Enfin, je veux dire, c'est du travail.
Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Inside, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, start-up, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables, sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autre, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de technos et il y a fort à parier qu'ils aient le développeur qui correspond à leurs besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast.
Bonjour François, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va bien. Et toi ?
Ça va très bien et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce deuxième podcast. Voilà, on est toujours au début de cette aventure, de pouvoir amener de la valeur sur les thématiques du management des équipes tech, de l'organisation, de la culture, sujets qui ne sont pas forcément traités aujourd'hui ou du moins pas assez, je trouve. François, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Alors, ben, volontiers. Donc déjà, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle François Pacul, je suis directeur technique d'une boîte qui s'appelle Baguera. Sur le plan géographique, cette boîte est localisée à Grenoble et la petite particularité, c'est que je suis en télétravail depuis 4 ans sur la côte méditerranéenne, donc du côté de Perpignan. Alors cette société a pour mission d'aider les industriels dans l'analyse, le suivi de leur processus de fabrication. Donc on intervient à plusieurs niveaux, on fait de l'intégration de composants logiciels et matériels qui au départ n'étaient pas prévus pour fonctionner ensemble. Alors, typiquement sur une chaîne de production, ça peut être des machines d'époques différentes, utilisant des protocoles différents. Ça peut être au niveau d'une industrie des silos informatiques qui ne discutent pas entre eux. Typiquement, des échanges qui se font normalement par des fichiers Excel entre la logistique et le contrôle de qualité. Enfin, ce genre de choses, je pense que ça parlera à beaucoup d'industriels. Donc nous intervenons là-dedans de façon à mettre des passerelles entre les différents composants qui ne sont pas connectés pour pouvoir offrir la possibilité de monitorer tout ça, de l'analyser, de voir où sont les points d'amélioration, où sont les dérives dans le temps. Typiquement, quelque chose qui prenait 20 minutes et qui prend 35 minutes, ça peut être intéressant de le savoir, enfin de le détecter et de savoir comment repérer les endroits qui ont dérivé. Et donc, ce qui me concerne personnellement, j'ai fait ma thèse à l'EPFL en Suisse sur les systèmes distribués, sur les systèmes tolérants aux pannes. Et j'ai travaillé au niveau recherche dans différents types de laboratoires. J'ai fait de la recherche corporate, j'ai fait de la recherche gouvernementale au CEA, corporate à Xerox et universitaire quand j'étais à l'EPFL. Et après toutes ces années de recherche, j'ai décidé que c'était peut-être temps de faire des choses un peu plus concrètes et un peu plus directement connectées aux réalités du terrain. Donc voilà, d'où Baguera.
Ok, super intéressant. Donc à la base, toi, tu es du milieu, on va dire, de la recherche, donc du milieu peut-être très théorique. Et tu t'es dit, je vais monter une boîte, je vais m'orienter dans la pratique. C'était ça la réflexion ?
C'est un peu ça, oui, effectivement. Enfin, tout ce qui est système distribué, gestion des pannes, et ce genre de choses, effectivement, c'est très théorique. Ça puise ses sources dans les, on va dire, dans les années 80. Donc, c'est pas des choses qui sont très très nouvelles. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des mécanismes que l'on va retrouver maintenant et qu'on a l'impression qu'ils sont des nouveautés, et ce genre de choses. Alors qu'en fait, ça s'appuie sur des théories très très anciennes. Hein, je veux dire, blockchain et compagnie, c'est du consensus distribué. C'est les années 80, hein, voilà, par exemple. Donc, il y a pas mal comme ça de choses qui sont mises en pratique maintenant, qui reposent sur des théories très très, comment dirais-je, très matures et très anciennes.
Ok, ouais, super intéressant. Ouais, y a un truc qui m'intéresse. Je pense que dans ce podcast, bon, c'est que le deuxième, mais je pense qu'on n'aura pas l'habitude de recevoir des personnes qui sont sur ta thématique à toi, et ça m'intéresse un petit peu de la creuser. Et est-ce que tu as un exemple concret d'une de tes prestations que tu effectues chez un de tes clients pour qu'on puisse bien situer quel est ton travail au quotidien?
Voilà, alors typiquement, bon, je vais donner un exemple qui va peut-être être justement suffisamment parlant. On a travaillé par exemple sur un atelier d'impression à la demande, et pour cette occasion-là, on avait à mettre à connecter des imprimantes, des grosses imprimantes de production. Donc plusieurs types d'imprimantes, hein, puisque les couvertures sont pas faites par les mêmes machines que le corps des livres, par exemple. Il y avait comme c'est sur un projet justement innovant pour montrer les avancées possibles, il y avait des véhicules autonomes qui pouvaient récupérer des parties de documents et les acheminer d'une machine à une autre pour que le processus soit en partie automatisé. Il y avait des opérateurs aussi qui pouvaient intervenir. Et en fait, sur ce cas typique, la problématique qui peut se passer, c'est que certaines machines ne sont pas disponibles, ou les médias nécessaires pour imprimer certains livres ne sont pas disponibles, etc. Et donc, dans tous ces batchs où il y a en fait plusieurs étapes, il faut s'assurer que tout arrive dans le bon ordre aux différentes machines pour que on mette la bonne couverture avec le bon contenu. Et que s'il y a typiquement un contenu qui ne veut pas être imprimé ou une couverture qui ne veut pas être imprimée, il faut retirer cette partie-là pour que le reste du batch puisse fonctionner. Donc voilà, typiquement, c'est des problématiques qui peuvent être relativement complexes, où il y a des anomalies qui peuvent se passer, et sur ce cas-là, l'anomalie devait être détectée et faire en sorte que le processus continue de fonctionner même en cas de problème.
Ok, et pour ces types de projets, tu travailles avec des langages en particulier, c'est des langages communs ou c'est des langages vraiment plus techniques?
Alors, on utilise Python, je dirais, pour la partie, on va dire, call. On utilise des frameworks, on va dire, basés sur du JavaScript pour la partie plus, on va dire, interface. Et on a une plateforme de coordination, donc, que nous avons développé en Python, qui nous permet d'utiliser justement des langages de coordination, enfin un langage de coordination que l'on a développé, qui permet de facilement décrire la coordination de ces différents éléments. Puisque bien évidemment, si on devait à chaque fois réécrire à la main, on perdrait tout le bénéfice de ce que peut apporter une plateforme, c'est-à-dire cette plateforme, nous, elle nous assure, typiquement si on a un groupe d'actions à faire, la plateforme va nous assurer que soit on fait toutes les actions qui étaient prévues, soit s'il y en a une qui n'est pas possible, on n'en fait aucune et on va basculer sur un scénario alternatif. Donc, typiquement, le consensus dont je parlais tout à l'heure, consensus distribué, on l'utilise à ce niveau-là, alors pas pour faire du blockchain, mais pour s'assurer qu'on a ce qu'on appelle une exécution transactionnelle d'un ensemble d'actions, c'est-à-dire qu'on garantit que soit tout est fait, soit rien. Et ça simplifie de le faire au niveau du langage et au niveau de la plateforme. Parce que si par exemple on a 5 actions à faire et qu'il y en a une des 5 qui peut tomber en panne, Si on doit corriger directement dans le code et prendre en compte toutes les combinaisons de toutes les pannes qui peuvent arriver, on arrive à un code qui est juste immaintenable. Alors que là, on n'a pas géré justement ça, la plateforme qui s'occupe de ça. Donc ça nous permet de développer beaucoup plus rapidement et surtout de garantir que ça va bien se passer.
Ok, ouais.
De nos jours est plutôt intéressant.
Donc, ah, c'est clair.
Le qu'il y a différents, chez différents, comment dirais-je, gros opérateurs ou gros systèmes, c'est quand même intéressant.
Ouais, carrément. Et du coup, donc tu me disais que tu avais développé ta propre plateforme, c'est ça?
Oui.
Donc ouais, c'est là, je prends la casquette un petit peu business, mais c'est un sacré actif pour l'entreprise aussi, ça, d'avoir développé son propre outil.
Exactement, oui. Exactement, parce qu'on le contrôle. C'est ce qui nous donne effectivement une avance technologique. Parce que même si, on va dire, les principes qui sont dedans sont connus, enfin, ça, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste la combinaison de plusieurs mécanismes bien connus qui sont mis ensemble et qui sont optimisés pour pouvoir fonctionner. Donc ça nous donne effectivement un avantage, parce que même si quelqu'un le refaisait from scratch, avant d'avoir les performances que l'on a, je pense qu'il y aurait de l'eau qui serait passée sous les ponts.
Je comprends. Yes, super. Je te propose maintenant que moi personnellement, j'ai bien cerné un peu plus ce que tu faisais. J'espère que ce sera le cas aussi pour les auditeurs. Dans tous les cas, si jamais ils ont des questions, je leur transmettrai ton LinkedIn si t'es OK et pourront débriefer avec toi.
Plaisir.
Super. Je voulais qu'on parle un petit peu de ton équipe aujourd'hui, ton équipe tech.
Alors, donc, il y a 5 personnes qui sont, on va dire, dédiées à la partie technique. Sur ces 5 personnes, il y a 3 personnes qui ont un PhD. Donc, en fait, on est très orienté, on va dire, recherche, innovation. Et on va dire c'est les personnes qui sont en partie complémentaires et en partie backup les unes des autres, ce qui fait qu'on n'a pas de, enfin on arrive assez bien à travailler ensemble et couvrir à peu près toutes les parties, enfin parce que quand même le spectre de ce qu'on est amené à faire est assez large. Donc le télétravail, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'ADN de Bagheera. Alors le télétravail, c'est pas nécessairement que travailler chez soi, hein. Ça peut être se retrouver, j'en sais rien, dans un parc pour faire une réunion entre 2 ou 3 personnes. Ça peut être travailler chez soi. Ça peut être travailler d'un lieu de coworking ou ce genre de choses. Donc effectivement, le télétravail pour nous était quelque chose d'important. Et pour ma part, donc j'ai choisi de relocaliser en région catalane, du côté de Perpignan, de façon à pouvoir avoir, on va dire, un pied sur Toulouse, Montpellier, Perpignan et on espère Barcelone prochainement. En complément du reste de l'équipe qui est sur Grenoble et donc qui, on va dire, va prendre toute la partie plutôt nord de la France, hein, puisque de Grenoble, c'est très facile d'aller à Paris, mais de Grenoble aller à Toulouse, c'est juste un cauchemar.
Ok. Dans vos prestats, vous vous déplacez dans les entreprises pour exécuter ou comment ça se passe?
Alors, il y a beaucoup de choses qui se font à distance. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec les imprimantes de production, le projet était aux Pays-Bas et personne n'y est allé. On a tout fait à distance. Donc, c'est possible. Mais on se déplace aussi, notamment sur les sites industriels, parce que c'est très important de bien capturer comment ça fonctionne et d'avoir des avis de personnes qui sont directement sur le terrain, parce que c'est là où est la connaissance des process. Nous, on ne fait que, en gros, les améliorer, mais pour améliorer quelque chose, il faut bien comprendre comment il fonctionne. Et ceux qui savent le mieux comment ça fonctionne, ce sont ceux qui sont justement impliqués dans le process, quoi. Donc oui, donc on se déplace quand c'est nécessaire. Et donc c'est un mix entre, on va dire, du déplacement et du travail à distance quand c'est faisable. Mais très souvent, il y a pas mal de travail à distance qui est possible.
Ok, et du coup, comment vous êtes organisé? C'est quoi votre orga, votre structuration au quotidien?
Alors en fait, c'est une organisation qui est assez plate, c'est-à-dire que chacun peut se retrouver soit impliqué dans un projet à titre de support au projet ou à titre de gestion du projet. Donc suivant les projets, c'est différentes personnes qui, on va dire, sont plus dans la gestion du projet. Et les autres interviennent sur leur domaine de compétences. Donc c'est assez plat. Il n'y a pas
Ok.
vraiment de grosse hiérarchie et de gros de, oui, enfin de schéma structure assez compliqué comme j'ai pu en avoir quand j'étais soit au CEA ou soit au Xerox, quoi. Où effectivement, il y a 7-8 niveaux de management. Pour des choses où souvent ça pourrait très bien fonctionner à plat, quoi.
Ok, donc si je comprends, en fait, tu vas avoir un chef de projet à chaque fois sur un client, et s'il a besoin de compétences bien particulières, il va pouvoir piocher dans les autres membres de l'équipe, c'est ça?
Exactement. Et en fait, les trois quarts du temps, ils piochent, hein, puisque on est sur des projets où personne n'a la totalité de la connaissance. À la limite, il peut l'avoir, mais il sera moins performant sur certains domaines. C'est clair. Je veux dire, moi, je ne crois pas aux personnes qui sont compétentes dans tous les domaines en informatique. Ça n'existe juste pas, quoi. Ou alors, ils ont les doigts qui peuvent se détacher et ils ont les oreilles pointues, quoi.
Non, je comprends très bien. J'aime beaucoup cette façon de fonctionner. Et du coup, si on revient un petit peu sur l'organe, on va dire plus sur le pilotage de projet. Donc, tu me disais, il y a un chef de projet. J'imagine que vous travaillez en agile.
Oui.
Ouais. Et du coup, vos projets, ils durent combien de temps en moyenne?
Ben, ça dépend. Alors, déjà, souvent les projets, on va dire, on démarre sur des petits lots et on va avoir plusieurs phases. Donc, on peut avoir des projets effectivement qui durent très longtemps, voire même qui ont plusieurs phases à des années d'intervalle. On a beaucoup de clients qui reviennent en fait pour on va dire des suites au projet initial. Donc on peut avoir effectivement des projets relativement longs et on peut avoir aussi des choses très on va dire très ponctuelles où ça peut être sur quelques mois, quoi. Donc voire même quelques semaines.
Ok, super, je te propose, mais peut-être dis-moi, est-ce qu'en termes d'orga, il y a quelque chose que l'on n'a pas traité qui est pour toi important de rajouter?
Alors, en termes d'organisation, donc ben, les outils, je ne sais pas si tu avais prévu une case spéciale pour ça ou si c'est le bon
On a
moment.
on en aurait parlé, mais écoute, c'est l'occasion d'en parler, donc vas-y, fais-toi plaisir.
Ben, en fait, les outils, on va dire que la chance qu'on a eue avec enfin, quand le Covid est arrivé, et le télétravail forcé a été mis en place dans pas mal d'entreprises, je dirais le gros avantage qu'on a eu nous, c'est que déjà ces outils étaient déjà en place et depuis plusieurs années, quoi. Donc on avait pu et donc on a beaucoup d'outils de collaboration, que ce soit on va dire des channels de communication sur différents sujets, on va dire plus ou moins techniques, hein, puisque comme je dirais, on est en télétravail tout le temps. Enfin, en tout cas, moi je suis en télétravail tout le temps. Donc on a des channels qui couvrent tous les sujets techniques sur les projets, mais aussi on a des channels random sur les échanges qu'on peut avoir au café sur le dernier truc qu'on a entendu sur la dernière fuite de données de tel comment dirais-je de tel ou tel etc. Enfin, typiquement des discussions de cafette, quoi. Donc on a des messages courts, on a donc évidemment partage d'agenda, ça c'est clair. On a ben, des outils au niveau de la forge de type GitLab qui nous permettent effectivement d'avoir une très bonne traçabilité aussi bien sur le code que sur la documentation, hein, des outils de GitLab. On a du partage de fichiers, donc des clouds internes. On a toute une myriade d'outils. On utilise aussi pas mal Zoom en visio. On a même un channel Zoom qui est en permanence ouvert, qui permet de connecter les bureaux de Grenoble avec les gens qui sont justement pas sur place, quoi. Donc, on peut aller faire un petit coucou, voir si effectivement il y a du monde, on veut juste échanger trois mots, ou alors se connecter là-dessus pour des échanges plus ciblés. Et sinon, effectivement, des zooms, on va dire, à deux ou à trois sur les différents aspects. Donc, généralement, ça marche sur, on utilise justement les channels courts, enfin messages courts pour se synchroniser, et après on passe sur du Zoom. Donc c'est pas des choses qui sont nécessairement planifiées. Il y en a des planifiées, mais ça peut être simplement sur on peut faire typiquement du développement en tandem ou sur un point de détail sur un algo, se mettre sur un Zoom de manière complètement impromptue, comme on aurait pu le faire en allant directement dans le bureau du collègue. Donc voilà. Donc il y a plein de moyens de faire en télétravail ce que l'on fait, enfin de faire à distance ce que l'on fait en présentiel. Donc voilà. Donc pas mal d'outils. Essayer de tracer le maximum de choses. Typiquement, on utilise RocketChat. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les archives de RocketChat, qui sont des choses que l'on met, sachant très bien qu'un jour on y retournera. Parce que on sait qu'on en a discuté et on sait que c'est tracé quelque part. Donc du coup, il y a relativement peu de pertes de connaissances et je pense même que par rapport à certaines boîtes où justement ce qui se dit à la cafette n'est pas tracé, je pense qu'il y a peut-être plus d'informations qui est finalement partagée, archivée et retrouvable que sur des choses où on serait en présentiel. Donc voilà. Donc le télétravail, si c'est, comment dirais-je, bien adapté, c'est-à-dire si on n'essaye pas de faire en télétravail ce qu'on fait en présentiel, le télétravail peut être très performant. Si effectivement le télétravail, c'est juste passer ses journées en visio à refaire du présentiel, ça va pas fonctionner. C'est clair. Donc voilà. Le télétravail, ça se prend aussi des techniques de télétravail. Et le gros intérêt de tout ce qui est justement messagerie, c'est que comme c'est purement asynchrone. Au final, il y a beaucoup moins d'interruptions, et les gens sont beaucoup plus sereins dans leur mode de travail.
J'ai l'impression que tout dépend des cas évidemment, mais quand tu es concentré, quand tu bosses une réunion par visio, tu as tendance à être beaucoup plus productif que quand tu es en présentiel, où c'est que tu vas parler, etc. Où c'est que la réunion va durer 2 heures, alors qu'elle peut se faire en 1 heure par Zoom.
Oui, clairement. Mais déjà, le côté, on va dire, quand on est en Zoom, je trouve que c'est pas quelque chose de super agréable, donc on a tendance à aller à l'essentiel. Alors qu'effectivement, quand on est dans une salle de réunion, bon, on est assis, on est confortable, on est tranquille, on est... Donc oui, probablement moins focus, oui, c'est sûr. Enfin... Après, il faut jouer au jeu, quoi. Mais voilà,
ce qui est bien aussi d'avoir un petit peu de moment de détente, etc., c'est peut-être un équilibre à avoir entre tout ça. Mais vous me dites que, tu m'as dit que de temps en temps aussi, tu vas sur Grenoble et vous faites du présentiel aussi pour garder un lien, peut-être.
Alors, effectivement, donc, bon, avec le Covid, ça a été un peu compliqué, mais en règle générale, toutes les 4 à 6 semaines, effectivement, je remonte sur Grenoble. On en profite pour faire tout ce qui est rétro, séance de créa et ce genre de choses sur des sujets où effectivement le présentiel se prête mieux à la chose. Il y a aussi tout le côté évidemment social, puisque c'est des semaines qui sont en général assez chargées en complicité au niveau de l'équipe. Et aussi, donc, l'équipe descend de temps en temps. Ben, ça tombe très bien. C'est le hasard du calendrier. Mais ce soir, il y a Thibaut, donc le CEO de Baguera, qui vient pour une semaine. Et jeudi, il y a deux collègues qui descendent pour passer donc jeudi vendredi à bosser et puis profiter le week-end qui suit derrière un petit peu on va dire des atouts de notre belle Méditerranée.
Je vais te faire une petite question fermée, tu vas me dire ce que tu en penses, mais est-ce que le fait d'être en télétravail et de se rejoindre en physique que à des moments vraiment ponctuels, une fois tous les 4-6 semaines, comme tu dis, ça permet pas justement de resserrer encore plus ces liens en disant que les moments où c'est qu'on se voit, ben, on profite vraiment. Et ensuite, derrière, quand on est en télétravail, ben, on peut bosser, même si il nous arrive d'avoir des discussions de cafétéria aussi, via des channels de communication. Mais est-ce que ça permet pas aussi de resserrer ces liens, justement?
Alors, je dirais oui, ça c'est sûr, mais je dirais il y a quand même une bonne partie de l'équipe qui se voit très régulièrement sur Grenoble, et les liens sont aussi très très serrés. En fait, je pense que la complicité dans l'équipe, elle est montée depuis le départ. Quand on a, en fait, il n'y a pas de comment dirais-je de hasard. Les gens qui sont dans l'équipe actuellement, c'est soit des personnes qui travaillaient déjà avec moi quand j'étais au CEA. Soit des personnes qui sont passées par le CEA et qui connaissaient des personnes de l'équipe, donc on va dire cooptation pour Thibaut qui est venu nous rejoindre un peu plus tard pour remplacer le premier CEO de Baguera qui voulait faire des choses plus techniques. Et la dernière personne, c'est une personne qui a été formée dans le cadre de, puisque nous intervenons aussi en faisant de la formation sur Grenoble dans le cadre du campus numérique. Donc c'est un des comment dirais-je des élèves entre guillemets qui a été formé par une partie de l'équipe Baguera qui a été embauché derrière. Donc c'est vraiment quand on embauche quelqu'un, on sait vraiment qu'il y a déjà des atomes crochus très 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 forts quoi. Et c'est vrai que l'humain est très important parce que c'est ce qui fait la cohésion d'une équipe. C'est pas le talent, il en faut, ils en ont, c'est pas le problème, mais c'est avant tout, je dirais, des fortes valeurs humaines qui fait que ça marche aussi bien.
Avant de commencer ce podcast, on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Tu me disais que justement toi tu avais pas de turnover. Justement, de ce que tu me dis, c'est aussi parce que toutes les personnes que vous recrutez sont des personnes que tu connais déjà, avec qui tu as une certaine affinité, que tu connais ses compétences. Donc, on va dire, c'est plus facile de ne pas se tromper de cette façon-là. Et ce qui m'intéresse, c'est comment tu as fait, du coup, surtout à la création de l'entreprise, pour amener tes collègues, justement, à dire, quittez ce que vous faites et rejoignez-moi dans le projet Baguera.
Parce que je pense qu'il y avait, il y avait une très bonne complicité, une manière d'interagir avec les gens. Et donc, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Je pense qu'il n'y a même pas eu à dire quittez ce que vous faites et venez à Baguera. C'est des gens qui ont dit je veux venir avec toi. Quoi. La chance, je dirais, que j'ai avec mon âge maintenant, c'est que j'ai quand même côtoyé un bon nombre de personnes et un bon nombre de personnes avec qui, effectivement, le feeling est bien passé, et c'est des personnes qui partagent en fait la culture et qui sont effectivement très intéressées à venir bosser sur Baguera. Une petite anecdote qui est vraiment un truc tout bête, mais qui à mon avis a une grosse importance. Une chose qu'on avait mis en place quand je travaillais au CEA, c'était que tout le monde peut faire des erreurs, et en fait, quel que soit le degré de gravité de l'erreur, je faisais juste de dire que il y avait eu une erreur de fait, enfin une boulette ou ce genre de choses, et en fait il suffisait d'amener un gâteau et puis c'était bon. Alors ça peut paraître comme ça complètement anodin, mais en fait pas du tout, parce que le problème d'une erreur, c'est pas que l'erreur a été commise, ça y en a toujours. C'est le problème, c'est que la plupart du temps, l'erreur, elle est camouflée. On se dit jusqu'au bout, je vais réussir tout seul à réparer mon erreur. Et en fait, 3 semaines après, quand on se rend compte que non, l'erreur, elle est plus possible de, d'être géré tout seul, ben, il y a 3 semaines de perdu, il y a potentiellement des gros problèmes qui se sont créés dessus et on se retrouve dans des choses vraiment très compliquées. Alors que si dès le départ, on va dire, l'erreur n'est pas, pas camouflée, mais au moins temporisée dans le signalement, on peut agir à plusieurs et on peut corriger des erreurs très qui auraient pu avoir de très grosses conséquences de manière très très simple. Et le gâteau, ben c'est le fait de se dire que voilà quoi, il y a quand même une reconnaissance de l'erreur qui est quand même important aussi de se dire voilà, ben, j'ai merdé quoi, tout le monde merde. Ouais.
Est-ce que chez Bagheera il y a beaucoup de gâteaux du coup qui tournent?
Alors il y a des gâteaux, souvent comme effectivement on est quand même assez gourmand, des fois on s'invente des erreurs pour amener les chouquettes, hein, donc voilà quoi.
Je comprends, ouais, ça devient vicieux après. Oh, j'ai fait une erreur, tenez, je suis obligé de vous amener ça.
Voilà, donc c'est ça. Non, mais il y a toujours des trucs. Des fois, c'est même très drôle, quoi. Enfin, ça peut être, mais des erreurs, ça peut être juste, je sais pas, sur un truc de dev, il y a un problème et je sais pas, le matin, on se retrouve avec 150 mails dans la boîte aux lettres parce que le truc est parti en boucle sur une demande de connexion, ce genre de choses, quoi. Bon, il n'y a pas mort d'homme, c'était en dev, donc on s'en fout, quoi. Mais voilà, mais bon, là, c'est clair que quand t'as ta boîte aux lettres, il y a 150 mails qui ne devraient pas, ça, c'est sûr, c'est gâteau, quoi. Ouais.
Et du coup, non, on en vient naturellement au sujet de la culture, et tu m'as déjà annoncé pas mal de choses sur votre culture. Est-ce que tu peux quand même les rappeler, c'est quoi aujourd'hui, je ne sais pas, les 4-5 principaux points de votre culture?
Alors, au niveau culture, je dirais ce qui caractérise un petit peu on va dire les collaborateurs, c'est qu'il y a eu une très grande confiance les uns envers les autres. D'ailleurs, à ce propos, les rétros que l'on fait régulièrement avec des speedbots et ce genre de choses permettent de ressortir, on va dire, des informations techniques, des informations internes à la boîte, mais très souvent il y a des informations, on va dire, plus personnelles, plus intimistes, ce qui montre effectivement la confiance qu'il y a entre les gens de ce mois-ci. Enfin, je n'étais pas au top de ma forme parce que ceci, cela, j'ai tel problème qui arrive, etc. Donc voilà, donc ça permet il y a une très grande confiance et pas mal d'échanges entre les gens à ce niveau-là. Et il n'y a pas de remise en cause de la compétence des gens, quoi. Enfin, c'est vraiment
la confiance,
confiance complète, il y a ça, et c'est vrai que c'est super important parce que ça enlève du tracas à gérer des choses qui devraient pas être gérables, enfin qui devraient pas être à gérer, quoi. Donc voilà, après il y a beaucoup de moments partagés aussi qui ont rien à voir avec Bagheera, enfin en tout cas avec on va dire les aspects on va dire techniques et gestion de la boîte. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important, quoi.
Et moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est, étant donné le background de toi et de certains, voire peut-être la totalité des membres de l'équipe qui ont un cursus très, on va dire, recherche, est-ce que ça a impacté justement votre culture aussi?
Ben, ça a impacté au sens des projets sur lesquels on se place. Il y a quand même une bonne partie des projets sur lesquels on se met où ce qu'il y a à faire n'a jamais été fait avant. Donc, okay. Effectivement, c'est assez challenging. Et donc, il y a des fois où c'est quasiment la page blanche et donc faut aller piocher dans l'innovation, piocher dans le background. On fait beaucoup de veille techno. Ça fait partie intégrante de notre boulot, hein. On surveille ce qui se passe, les nouveaux outils, ce qui est tendance, ce qui l'est pas, des soi-disant nouveaux trucs qui sont basés sur des technos des années 80, hein, ouais. Donc autre chose, de façon à pouvoir ben, justement répondre à des besoins qui sont complètement complètement nouveaux. Quoi. Donc là, oui, on va dire la fibre scientifique d'une partie de l'équipe et puis même de tout le monde, hein, parce que même ceux qui, je dirais, n'ont pas une, on va dire un background académique de chercheurs sont quand même sur, enfin, ont travaillé sur des thématiques quand même qui étaient très 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 innovantes. Hein, donc voilà. Donc oui, on, pour nous, effectivement, le bon projet, c'est le projet où, où a priori, il n'y a pas une solution qui se déroule quand on sort de chez le client. Quoi.
Mais c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, je pense que tu peux avoir de très bons développeurs qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas forcément cette culture-là, cette culture ben, de la, comme tu dis, de la recherche, de la veille, de pouvoir partir d'une feuille blanche. Et du coup, bon, toi, tu es dans une vision où c'est que tu recrutes que des personnes de ton réseau pour le moment parce que tu n'as pas besoin derrière d'avoir des campagnes de recrutement parce que tu n'es pas à des croissances énormes, on en a parlé. On le voit beaucoup dans des boîtes qui aujourd'hui ont plus de croissance et qui sont obligés de recruter à toi, qui se trompent souvent dans le recrutement parce que les personnes n'ont pas la bonne culture, n'ont pas la bonne vision, alors que ce sont de très bons développeurs.
Exactement. Je dirais, alors je vais peut-être choquer, mais être très bon développeur, c'est relativement facile. Enfin, je veux dire, c'est du travail, mais ce n'est que du travail. Il suffit de bosser les frameworks, les machins, etc. Et on arrivera à être bon. Ça, c'est pas le. Enfin, une grande majorité arrivera à être bon. Par contre, sur les aspects innovation, sur les aspects, ben, sur un point particulier de performance, arriver à trouver l'astuce qui va faire que l'on va pouvoir gérer le problème, etc. C'est autre chose. C'est pas que de l'apprentissage, il faut déjà être tombé dedans, je pense, un petit peu à un moment donné, et il faut l'avoir développé sous forme de, bah, typiquement, oui, tout ce qui est dans les processus, je dirais, de recherche, de faire le tour de ce qui a été fait, de s'intéresser aussi bien à ce qui a marché de ce qui n'a pas marché. Très souvent, les gens ne s'intéressent pas aux échecs, enfin, aux choses qui ne marchent pas. Et pourtant, les choses qui ne marchent pas, c'est essentiel. Quand on a quelque chose qui marche pas et qu'on a compris pourquoi ça marchait pas, il y a toujours tout un tas de connexions sur des problèmes qui vont nous arriver à un moment donné, dans lequel on va se retrouver dans le même cas de figure. Et donc, il faut pouvoir être capable de simplement de dire, bah non, en fait, cette voie-là, c'est juste pas possible parce que. Parce qu'on sait depuis 10 ans que c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, des fois, je discute avec des gens qui me racontent ce qu'ils essayent de faire, et souvent, je leur dis, ouais, mais depuis les années 80, on sait que c'est pas possible. Donc, enfin, après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, ça, c'est pas le, mais juste, on sait que c'est pas possible. Donc, et ceux qui ont dit que c'était pas possible, il y a quand même 2 prix Turing dedans, donc voilà. Et donc, du coup, ça permet de se concentrer sur, ben voilà, s'il n'y a pas d'algorithme qui permette de gérer quelque chose, ben on va partir sur une heuristique, on va partir sur quelque chose de, on va dire, d'alternatif qui va permettre de résoudre le problème dans le contexte particulier pour lequel, là, potentiellement, il y a une solution.
Ouais, donc, vous avez une approche aussi très pragmatique, dans un sens.
Ah, ben complètement, oui. Enfin, ça nous arrive de dire aux gens, non, ce que vous voulez, c'est juste pas possible. Enfin, ça va être extrêmement coûteux. Ou ça va marcher pour 10 clients, mais ça va pas passer à l'échelle. Quand on voit, il y a pas mal de start-up avec des idées qui sont potentiellement intéressantes, mais où on sait dès le départ qu'il y a des verrous technologiques qui ne pourront pas passer. Parce que, j'en sais rien, parce que c'est équiper quelqu'un avec des capteurs, et quand on sait le nombre de capteurs et qu'on voit le nombre de batteries qu'il va falloir pour les capteurs, il faut juste demander à la personne de se trimballer avec 10 kilos de batterie. Personne ne se trimballera avec 10 kilos de batterie. Donc, je veux dire, donc dès le départ, on sait que il y a cette barrière à l'entrée et que c'est pas demain qu'on va résoudre le problème. On fait des progrès dans les batteries, mais la batterie, ça reste quand même toujours quelque chose de relativement lourd. Beaucoup de problématiques qui sont effectivement l'alimentation des capteurs, qui sont le placement physique des capteurs, qui sont les distances de connexion, qui sont l'environnement dans lequel on va le mettre. Typiquement, vous mettez des capteurs sur un site industriel. Le site industriel, en termes de, je dirais, de bande passante et de range sur du sans fil, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, c'est un peu plus compliqué que sur une plage déserte, hein. Il y a un peu plus d'obstacles. Donc ça, c'est des choses effectivement qu'il faut prendre en compte, quoi.
J'ai une question qui est hyper importante, je trouve. C'est pour toi, quel est le plus gros challenge que toi et tes équipes avez relevé et comment vous êtes arrivé à le relever, ce challenge?
Alors, je vais être bien embarrassé pour répondre à cette question. Je vais faire référence à ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, pour nous, il y a, on va dire, 60% des projets que l'on fait, c'est un challenge. Parce que justement, on est sur une page blanche. Donc, je saurais pas en mettre un en avant plus que d'autres. Et par contre, je dirais faire une réponse collégiale pour l'ensemble de ces projets-là. C'est le fait d'en discuter, d'essayer les alternatives, d'essayer de voir ce qui s'est fait, ce qui a pas marché. Donc le challenge, il est là, il est dans le trouver l'idée, trouver le moyen de casser le verrou technologique. La plus grande satisfaction, c'est que l'idée n'arrive jamais de la même personne, quoi. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un travail d'équipe et qu'il n'y a pas, une personne c'est pas toujours la même personne qui va nécessairement trouver la solution, et que souvent c'est même des approches d'agrégation sur une partie de l'idée soufflée par l'un qui va être enrichie par l'autre, etc. Donc voilà. Donc ça, oui, ça c'est ça la fierté de la chose, c'est que c'est vraiment une équipe, c'est un travail d'équipe, et que c'est pas justement une personne qui serait l'oracle qui résout tous les problèmes.
Ok, merci. Deuxième question, c'est aujourd'hui, c'est quoi les contenus que tu suis liés à ton activité, que tu aimes bien, tous les blogs, livres, podcasts, je sais pas, chaîne YouTube, autres contenus que tu aimes bien suivre?
Alors, je suis beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est très important, alors que ce soit, dans le cadre du boulot ou extérieur au boulot, enfin, c'est-à-dire, en fait, ça s'arrête pas à la fin de la journée, hein, parce que très souvent, ça m'arrive de faire de la veille, parce que je suis tombé sur une news. Alors, très souvent, c'est une news de journaliste, hein, où le titre est volontairement provocateur. Et en creusant pour arriver aux sources d'où vient cette news, que l'information importante y est, quoi. Et donc, généralement, il y a un gap entre ce qu'a dit le journaliste sur ce qui était possible de faire et ce qu'il est effectivement possible de faire. Mais en tout cas, même, je dirais, des choses complètement abracadabrantes, ou quand on le lit, on se dit non, c'est juste pas possible. Eh ben, ça amène de toute façon toujours une information, parce qu'il y a un embryon d'information quelque part sur le web qui est accessible. Ça peut être du LinkedIn, ça peut être sur YouTube aussi. Il y a effectivement beaucoup de chaînes de vulgarisation et même de chaînes très pointues sur des sujets spécifique, et puis simplement le fil techno d'actualité sur lequel on a des infos qui permettent de rebondir. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je retrouve dans cette démarche un peu ce que je retrouvais gamin quand j'ouvrais les grosses encyclopédies, où en fait on tombe sur des articles intéressants qui pointent sur d'autres, sauf que maintenant ça se fait beaucoup plus rapidement. Et on arrive toujours à les récupérer des bribes d'informations sur différents domaines, et on se rend compte que un jour ça peut être utile, quoi. Donc voilà. Donc surtout ne pas faire l'impasse sur de l'information. Ça peut être sur des sujets. Alors le dernier truc que j'ai regardé qui était c'était comment rendre transparent du bois. Donc, il y a strictement, je dirais, aucun intérêt, voilà. Mais c'était quand même très intéressant en termes techniques. Et peut-être qu'un jour, effectivement, ça me servira, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, c'est des choses très... voilà.
Non, mais je comprends l'idée. Je trouve ça intéressant aussi de pouvoir se cultiver, se renseigner sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait pour, pourquoi pas, un jour, se les approprier par rapport à notre champ d'activité. Et parfois, il y a des idées qui viennent de milieux complètement différents.
Complètement. Et ça, je m'en suis rendu compte, en fait, très vite, en fait, dans mon boulot de recherche, hein, puisque je travaillais sur la cohérence des systèmes informatiques, hein, cohérence des données. Et en fait, il y avait tout un pan, la plupart des informations que j'ai trouvées, c'était sur des électroniciens qui avaient bossé sur des sujets similaires, sur des mémoires des années avant. Et en fait, il n'y avait jamais eu de pont qui avait été fait entre ces électroniciens et les informaticiens. Et en fait, les électroniciens avaient beaucoup de bons concepts, et les informaticiens étaient en train de mettre des mots et de construire toute une stratégie de classification sur des choses qui finalement étaient déjà connues depuis 10-15 ans. Et de faire justement le lien entre les deux, je pense que c'est ce qui a fait avancer très rapidement ces aspects-là de cohérence des données sur les systèmes informatiques. Voilà. Donc, comme quoi, des choses qui, au départ, n'ont pas un lien direct, finalement, sont fondamentales quand on regarde bien. Quoi.
Merci beaucoup, François. On va clôturer ce podcast. J'espère, les auditeurs, que vous allez pouvoir prendre de la valeur, que vous allez pouvoir vous inspirer un petit peu de François pour vos activités. Et François, je te remercie encore une fois.
Merci pour l'invitation, puis ça a été un vrai plaisir. Donc, voilà. Et puis j'attends les autres podcasts avec impatience.
Yes, je te les enverrai avec plaisir.
Merci.
Allez, à bientôt.
À bientôt.